Orient Hebdo, Éric Bataillon.
Le 1er novembre 1954, le Front de Libération Nationale fait parler de lui pour la première fois en Algérie en organisant une série d'attentats que les autorités françaises appelleront la Toussaint Rouge. S'en suivent des années de conflits au sein du département français d'Algérie et l'envoi régulier de jeunes appelés du contingent pour ce que l'armée appelle pudiquement la pacification. Plus de 450 000 jeunes y patrouilleront l'ensemble du territoire chaque année. Au total, ce sont 1 500 000 appelés qui seront envoyés en Algérie entre 1954 et 1962. Parmi eux, Bernard, 85 ans aujourd'hui, qui, après de longues années de silence, a choisi de parler au micro d'Orient Hebdo. Un entretien qui constitue le troisième épisode de notre série estivale consacrée au 60e anniversaire de la fin de la guerre d'Algérie. Bonjour Bernard.
Bonjour Éric Bataillon.
En quelle année avez-vous été incorporé ?
J'ai été incorporé au début mars 57. Je suis allé en Allemagne. En Allemagne, je suis resté 4 mois pour faire mes classes. Mais j'étais faire les classes à titre AFN après. À ce moment-là, on a passé un concours, ceux qui avaient un certain niveau d'instruction, le niveau du bac. On a passé un examen, j'ai été reçu pour faire les EOR. Et j'ai fait les EOR à Cherchel, en Algérie. Donc, du mois de juillet au mois de décembre 57, j'ai fait 6 mois de stage d'officier de réserve. Et après, j'ai été incorporé dans un régiment Kabylie.
Justement, dans quelle arme étiez-vous et à quel endroit étiez-vous installé en Algérie ?
Eh bien, j'étais dans l'infanterie. L'infanterie, à ce moment-là, on disait infanterie coloniale, ce qui est devenu après infanterie de marine. Et j'ai été incorporé, donc, dans la région, dépendait de la Vilaya 3. De la Vilaya 3, c'était pour les Félagas. Mais nous, notre général, le général de notre division, l'état-major, était à Tizi Ouzou. Et moi, j'étais à Borj Menayel, c'est à 30 ou 40 kilomètres de Tizi Ouzou.
Avec quel grade ?
Sous-lieutenant. Enfin, aspirant pendant 3 mois et après sous-lieutenant.
Avec, dans la troupe, des appelés et des engagés ?
Ah ben, c'était que des appelés. Il y avait des carrières. Mais des carrières, il y avait le capitaine qui était de carrière dans la compagnie où j'étais. Capitaine, il y avait un adjudant-chef, il y avait des sergents, il y avait quelques caporaux de carrière. Mais autrement, c'était tous des appelés.
Quelle impression avez-vous eue quand vous êtes arrivé en Algérie ?
Eh bien, quand on est arrivé à Alger, quand on est débarqué, quand on voit cette ville blanche, c'est magnifique. Pour des Européens, on n'était jamais fait de voyage très, très éloigné. Donc, ça a été déjà quelque chose de formidable. Le soleil, naturellement, la chaleur. Et puis, bon, on n'avait pas l'impression que c'était la guerre. Hein, ça, il n'y avait pas de coup de feu. On a débarqué. Il pleuvait beaucoup. On est tombé sur une période où il y avait des inondations dans la Mitidja. D'ailleurs, on n'a pas pu rejoindre tout de suite notre régiment parce que les routes étaient complètement inondées. Il n'y avait que le train qui pouvait passer et encore très difficile. On est resté 3 ou 4 jours dans un centre d'hébergement militaire, naturellement. Et après, quand ça s'est amélioré, on a été... En premier lieu, on a rejoint le PC du bataillon où on allait être. Donc, c'était le 3e bataillon. Et on a passé la nuit, c'était la nuit du 31 au 1er janvier 58. Et le lendemain matin, un camion a fait la liaison avec le poste que j'ai rejoint. Et j'y suis resté 18 mois dans ce poste.
Donc à Tizi Ouzou ?
Dans la région Tizi Ouzou, mais moi j'étais dans un tout petit bled de moyenne montagne, c'était pas très... Nous on n'était pas excessivement loin de la mer, on était à 30 km de la mer.
Donc quand vous êtes arrivé à Cherchel, qui était votre lieu d'implantation, quelle impression avez-vous eu ? C'était un village comment ?
Cherchel c'est une petite ville, c'est sur la côte, à je crois 70 ou 80 km d'Alger. C'est une ancienne ville romaine. Alors il y a un ancien stade romain, il y a un ancien théâtre, il y a beaucoup de la civilisation, il y a des portes très anciennes. Non, non, c'est une jolie petite ville, mais quand on est arrivé, il y avait des drapeaux français. Moi, je me rappelle ce qui m'avait vraiment impressionné, c'était beaucoup d'anciens habillés en tenue traditionnelle, avec des turbans, leurs médailles militaires, assis sur des bancs qui papotaient. On avait l'impression d'arriver dans une ville du sud de la France, avec les citronniers, les arbres. Enfin, moi, je ne me rappelle pas exactement, mais je sais que j'ai passé 6 mois. C'était agréable comme tout. On allait manger dans des petits restaurants. C'était une jolie petite ville.
Vous n'aviez pas l'impression d'être ailleurs qu'en France?
Ben si, on avait l'impression, parce qu'il y avait la population, hein, la population était à majorité musulmane. C'était joli comme tout, c'était mignon, c'était bien, il y avait beaucoup de fleurs, il y avait beaucoup d'arbres. Non, non, c'était... On avait l'impression d'être dans une ville du sud de la France. Naturellement, la population n'était pas la même, mais c'est tout.
Quelle relation aviez-vous avec les populations locales que vous rencontriez?
Nous, on faisait des patrouilles en permanence, ce qu'on appelait un sous-quartier, qui était délimité militairement. Il y avait d'autres compagnies qui avaient un autre secteur. Donc notre rôle était déjà de patrouiller, de faire des patrouilles avec une dizaine d'hommes, ou si c'était plus, on pensait que ça serait plus dangereux, on partait toute la section. Des fois, on partait avec les deux sections. Et puis voilà, nous on avait des relations, on savait bien qu'ils étaient en contact également avec les gens de la rébellion, mais bon, c'était comme ça.
Dans ces relations avec l'environnement, vous avez participé à des coups de feu, il y a eu des accrochages.
Oui, on a eu quelques petits accrochages, même dans notre sous-quartier qui était, si on peut dire, à ce moment-là, militairement, on disait c'était une région pacifiée. C'était pas aussi dangereux que plus loin dans la montagne, quand on allait vraiment dans le cœur de la Kabylie. Dans le cœur de la Kabylie, il y avait des zones, quand on allait en opération, c'était très risqué, on le savait. Il y avait des bandes, ce qu'on appelait les Katibas. C'était des compagnies qui étaient sur le même modèle que nous. Hein. Et donc là, c'était autre chose.
Est-ce que vous avez assisté justement à des affrontements assez graves avec des morts?
Pas vraiment au contact, mais moi j'ai été pris pendant 10 minutes ou un quart d'heure sur les feux de fusils mitrailleurs, justement dans ces zones un peu à risque, et on n'a pas bougé, on s'est aplati, et c'est là que j'ai eu vraiment, enfin j'avais eu le baptême du feu avant déjà, mais là ça a été le plus terrible, je sentais les balles qui sifflaient au-dessus, qui passaient. J'ai dit, si baisse un peu le fusil mitrailleur, je vais y passer. Je voyais taper, il y avait une butte de terre derrière moi, c'était sur une piste. Tous mes gars de ma section, moi, je les faisais toujours bien marcher en tirailleur, très écartés, pas être les uns contre les autres, n'a pas eu de casse. Il n'y a eu qu'un blessé, c'était un porteur de poche, c'était même pas un Européen, c'était un Algérien, qui était avec nous, parce que des fois on avait des gars qui étaient un petit peu suspects, et c'est lui qui a été blessé, le seul, blessure relativement peu importante.
Quel sentiment aviez-vous à ce moment-là de votre présence sur le terrain?
Ben, on se rendait compte que c'était pas normal qu'il y ait une rébellion, mais d'autre part, il y avait quand même, on se rendait compte qu'il y avait eu des choses de faites en Algérie quand même, bien sûr. Ce qui nous faisait réfléchir le plus, c'était la différence qu'il y avait entre les colons qui avaient de belles propriétés et les fellahs qui avaient trois fois rien. Mais bon, on se rendait compte qu'il y avait des inégalités, mais certains Algériens étaient avec nous. tous n'étaient pas... Enfin, on ne savait pas, hein. On ne savait pas qui était pour, vraiment, et qui était contre. Quoi qu'il en soit, ils avaient tous un sentiment, ils voulaient tous que ça finisse, cette guerre. Mais moi, je vois, nous, on avait des harkis qui disaient, oh là là, il faudrait que ça finisse, il n'y a pas de raison qu'on se batte, on devrait... C'est que moi, j'avais dans des dégâts, il y en avait un, il avait fait les deux guerres avant, il avait fait la guerre de 14, il avait la guerre 39-40. Et c'est vrai, ils aspiraient à une fin. Bon, la fin n'a pas été certainement ce qu'ils espéraient, mais je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui leur est arrivé à ceux que j'ai connus.
Est-ce que les soldats qui étaient comme vous, des appelés, avaient le moral quand ils étaient sur place? Est-ce qu'ils étaient critiques vis-à-vis de ce qu'on leur demandait de faire ou au contraire plutôt passifs?
Non, non, ils étaient assez dociles. Bon, ils rougeaillaient, mais comme tout... Soldats pour certes, non. Ce qui les ennuyait le plus souvent, c'était les tâches pas ménagères, mais de faire les décorvées, des trucs. Mais partir en patrouille, en opération, bon, on avait un peu la boule au ventre, hein, parce que quand on partait à 2h du matin avec les camions, avec les directions des régions, on les connaissait, on savait comment ça se passait. On se mettait en place dans la nuit et puis au matin. Nous, on faisait surtout, dans ces opérations, on faisait surtout le bouclage, c'est-à-dire qu'on fermait une zone et après on ratissait. Et quand il y avait gros accrochage, c'était les parachutistes qui intervenaient la plupart du temps. Nous, on intervenait beaucoup moins que si on était pris dans le feu de l'action, ça nous est arrivé. Mais ce n'est pas nous qui avions la plus grosse tâche et le plus de risques. C'était surtout les parachutistes.
Est-ce que cette période pour vous de présence militaire donc en Algérie a eu des conséquences, a changé des choses pour votre vie?
J'étais pas militaire de carrière, mais ça fait rien, j'ai pris quand même mon rôle au sérieux. D'ailleurs, la principale angoisse que j'avais, c'était de finir une journée avec un 3 ou 4 morts dans ma section, ce qui aurait pu arriver. Bon, j'ai eu cette chance que... Ça ne s'est pas produit, mais moi, on n'était pas des méchants. Les gens, il y a toujours, dans tous les humains, il y a d'ailleurs, ça dépend aussi de la situation. Des fois, on a critiqué des réactions, des fois, de certains appelés qui risquaient de tirer un peu trop à l'aveuglette, sans discernement. Il fallait quand même... C'était les gars armés. Il fallait se méfier des civils, mais on n'avait pas à faire des massacres de civils. Il y en a certainement eu, certainement, dans certains reportages qu'on a pu voir. Mais ça, je n'ai pas vu de choses pareilles.
Quand il y a eu les accords d'Évian en 62, il y a 60 ans donc, quel a été votre sentiment?
On s'est tous dit, c'est dommage que ça finisse comme ça. Parce que il y aurait pu y avoir des ententes. Il n'y avait pas de raison, il n'y aurait plus. Mais c'est sûr que 8 ans pratiquement, oui. Et 8 ans de eh ben ça laisse des traces. Ça laisse des traces, c'est certain. Ça a laissé des traces dans la population, parce qu'ils ont quand même souffert, la population, dans les bleds. Parce que quand même, quand il y avait des grosses opérations, il y avait quand même l'aviation. Il y avait toujours, comme on dit, des problèmes collatéraux, hein. Mais c'est certain, il y a toujours eu des victimes civiles, comme dans toutes les guerres. Mais je me disais, si, j'étais pas très content que ça finisse comme ça, mais d'un autre côté, j'ai accepté très facilement, enfin, que ça s'arrête aussi, parce que ça ne pouvait pas durer. Ça ne pouvait pas durer parce que ça pouvait, militairement, c'était pas le problème le plus grave, mais ça se renouvelle toujours. On a vu, il y avait un 58, 59, je ne me rappelle pas exactement, il y avait Ami Rouche. Ami Rouche, c'était le chef de la Vilaya 3. Bon, il a été abattu dans une opération. Bon, on avait l'impression que les militaires de carrière disaient « Ah ben, ça va changer, si ça, il y a eu un remplaçant le lendemain. Hein, » qui a été moins sanguinaire, mais ça a continué. C'est sans fin, ces guerres. D'ailleurs, on le voit même maintenant, et ça se passe de partout. Ça ne peut pas continuer. Il n'y a rien à faire. Les gens qui ont envie de voir leur indépendance, ils peuvent se battre longtemps. Enfin, mon avis. Hein.
Pour vous, c'était inéluctable que l'Algérie, finalement, devienne indépendante à un moment ou à un autre ?
Inéluctable, moi, je me disais toujours, pourquoi on n'arrive pas à un accord ? Parce que on avait des bons contacts avec des civils. On se disait, il y a des possibilités. Je pense qu'il y a eu trop de... Ben la fin, moi, j'y étais pas naturellement, mais avec l'OAS, c'est vrai qu'il y a eu vraiment des choses qui se sont passées d'un côté comme de l'autre. Hein. Moi, je ne veux pas critiquer, parce que très souvent, à la fin de la guerre d'Algérie, on n'était même pas tellement bien vu, hein, ceux qui avaient fait la guerre d'Algérie, parce qu'on nous prenait tous pour des assassins. Hein, on n'en parlait pas. J'ai expliqué pas mal de choses à mon épouse il y a un an. Hein, j'en avais jamais parlé, je lui avais dit oui, ben voilà, on a fait l'Algérie, et puis c'est tout. J'ai jamais. Parce que le problème, après l'indépendance, il y a beaucoup de Français de métropolitains qui sont allés y travailler à titre de coopération. Et là, ils ont entendu, alors il ne faut pas demander, hein, ils ont entendu des. Bien sûr, c'est vrai, mais ça n'a pas été. Maintenant, je pense que. Il y a des choses qui se disent. Il y a eu des abus des deux côtés. Il y a eu vraiment des violences des deux côtés. Mais bon, peut-être que nous, on avait plus de tort, mais voilà.
Merci Bernard.
Merci Éric Bataillon.
En nom des réalisations de Mathias Golchani, une émission que vous pouvez réécouter sur notre site RFI.fr. Dimanche prochain, épisode 4, les souvenirs d'un ancien jeune enseignant dans un lycée d'Alger, le fondateur de la géopolitique moderne, Yves Lacoste. Prenez soin de vous, tout de suite, le journal. Édition spéciale.